Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous l'avons entendu en première lecture, prophétie d'Ézéchiel, prophétie donc promesse pour chacun d'entre nous. Et quelle joie de l'entendre. Le Seigneur qui nous dit par la bouche du prophète Ézéchiel, un jour, je mettrai en vous mon esprit. Extraordinaire, se dire qu'un jour, enfin, l'Esprit du Seigneur sera en nous. Mais je vous pose cette question, frères et sœurs. Ça sera quand ? Quand est-ce que cette prophétie, « Un jour, je mettrai en vous mon esprit », s'accomplit dans la vie d'un fils, d'une fille de Dieu ? Quand pourra-t-on dire, avec saint Paul, c'était la deuxième lecture, quand pourra-t-on entendre « Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit habite en vous ?» Quand ? Il suffit de voir notre regard au dessert tout à l'heure, quand il va arriver sur la table, pour se dire que ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais quand pourra-t-on dire cela ? Alors les catéchumènes qui sont devant nous, Léa, Vanessa et Joris, ils se disent, ben dans quelques jours, par le don du Saint-Baptême, l'Esprit du Seigneur sera en moi, et donc tout va rouler. Alors chers amis, il faut qu'on leur dise quand même la vérité. Il ne faut pas qu'on leur vende du rêve, il faut que nous leur annoncions l'espérance que nous procure la révélation divine, rejointe par notre expérience personnelle de vie chrétienne, et qu'on leur dise la vérité. Oui, c'est vrai, dans quelques jours, l'Esprit du Seigneur sera implanté en vous pour toujours. Vous allez recevoir par ce qu'on appelle l'inhabitation, c'est-à-dire l'habitation à l'intérieur de la vie trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit Saint vont faire de vos personnes la demeure du Très-Haut, et donc l'Esprit du Seigneur sera en vous. Oui, mais... On va leur dire quand même, hein. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce que le vieux schnock, ce que saint Paul appelle le vieil homme, il est toujours vivace et vivant au fond de nous. Il est ligoté par l'Esprit Saint et dans la force du Christ, nous pouvons le juguler, mais il n'est pas mort. Et il gigotera dans notre vie jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à notre dernier souffle. Le vieux schnock voudra reprendre ses droits, le vieil homme. Nous avons reçu les arts de l'esprit, cet esprit du Seigneur qui commence à le travail de la résurrection dans notre vie et qui fait advenir l'homme nouveau qui est notre vrai moi, notre vraie personnalité. Vous ne serez jamais aussi autant vous-même qu'au jour de votre baptême et dans la vie baptismale, dans la grâce. On n'est jamais plus soi-même qu'en étant un saint. Plus on ressemble à Dieu, plus on est nous-mêmes. Ça, nous le croyons, mais nous le savons aussi. Si l'ennemi est dominé, il n'est pas anéanti. En fait, on pourrait dire que la vie chrétienne, elle se situe entre deux giga résurrection. La première qui va se produire pour vous dans la nuit de Pâques, qui va effectivement faire mourir en vous le vieil homme, en tout cas en grande partie va l'anéantir, mais pas totalement, et vous donner de rentrer dans la vie nouvelle en accueillant l'Esprit du Seigneur. Cette résurrection est presque totale et elle sera totale au jour de votre mort. Pourvu que cette mort soit une entrée dans la vie. La résurrection définitive, totale, elle s'accomplit le jour de notre mort, si nous sommes sauvés. Et donc nous sommes situés entre deux giga-résurrections. Et entre les deux, frères et sœurs, nous avons à vivre des micro-résurrections, tous les jours, petit à petit, portés par la victoire du Christ, dont le mystère a été implanté en nous, et dans l'espérance d'une résurrection totale, Entre cette résurrection initiale et cette résurrection finale, nous essayons, avec la grâce de Dieu, de laisser la victoire du Christ l'emporter, de vivre des micro-résurrections qui consistent à laisser le Christ remporter sa victoire en lui laissant toute la place dans la foi, en laissant son esprit l'emporter et être sous son emprise. Ça demande une attention de tous les instants, une vigilance de tous les jours. C'est vrai, il y a encore cette petite tension, celle de la conversion, qui accompagne notre vie. En même temps que la paix que procure l'espérance et la perspective d'une délivrance totale nous établit quand même dans une belle paix, une sérénité. Mais soyons francs, on ne vous vend pas du rêve. Le début de la victoire va commencer dans quelques jours pour vous, mais il faudra attendre le dernier jour pour qu'elle soit totale et définitive et irréversible par la résurrection finale. En attendant, frères et sœurs, nous nous y appliquons. J'aime bien ces lignes qu'on trouve dans le journal d'un curé de campagne de Bernanos, qui donne ce conseil à son jeune confrère. Rappelle-toi l'écolier penché sur la page blanche qui tire la langue. Voilà comment le bon Dieu souhaite nous voir lorsqu'il nous abandonne à nos propres forces. Les petites choses, les petites victoires intimes n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix, comme les fleurs des champs, vois-tu, on les croit sans parfum, et tout ensemble, elles embaument. Elles diffusent le parfum de la résurrection et de la victoire qui nous devance, comme le Christ ressuscité vient au-devant de nous. Lazare, dans le récit que nous venons d'entendre, Saint Lazare, le frère de Marthe et de Marie, l'ami de Jésus, voyez comme il est ému en voyant seulement la mort de Lazare, il fait l'épreuve du deuil, mais aussi en voyant l'émotion des autres autour de lui, il est gagné par l'émotion, Jésus. C'est beau d'admirer ce trait d'humanité. Lazare, sa mort est sans doute assurément une mauvaise nouvelle pour les siens. Peut-être qu'elle fut une délivrance pour lui d'abord, et pas une mauvaise nouvelle pour lui, parce qu'enfin, il peut rentrer dans une vie où l'Esprit du Seigneur, la pensée du Seigneur domine totalement. Si nous croyons à la vie éternelle mérite davantage le mot de vie que celle que nous menons ici-bas. Son retour à la vie, puisqu'il revient finalement, est sans doute perçu comme une bonne nouvelle pour Marthe et Marie et les siens, peut-être pas pour lui. S'il a commencé à entrevoir la paix de la victoire définitive et la vie céleste, je ne sais pas. À moins que ce retour à la vie terrestre, en fait, lui donne de savoir plus profondément ce qu'il lui reste à faire jusqu'à mourir une bonne fois pour toutes, parce qu'il mourra une autre fois, Lazare, vraiment. Le fait d'apercevoir que sa résurrection finale est peut-être compromise par ses propres compromissions, justement, et lui donne de comprendre la nécessité, le devoir de ressusciter chaque jour pour que ses petites résurrections le disposent à la résurrection finale, pour que sa mort débouche sur la résurrection. Voilà à quoi nous nous employons, comprendre que notre vie est comme une belle période d'entraînement où nous devons mourir pour vivre, apprendre à ressusciter. Être chrétien, chers Léa, Vanessa et Joris, c'est apprendre à ressusciter chaque jour et pour ce faire, à mourir chaque jour en laissant le Christ ressusciter en nous, laissant la grâce l'emporter dans toutes les dimensions de notre existence. C'est ce que résume bien, je crois, cette belle prière, je l'aime beaucoup et sans doute vous aussi. Mère Teresa la faisait réciter, c'est obligatoire, je crois que c'est dans les constitutions, tous les jours aux missionnaires de la charité, à ses filles, ce qu'on appelle la prière de Saint François. Vous la connaissez tous, c'est beau parce qu'elle décline dans toutes les dimensions ces résurrections. Là où est l'offense, que je mette le pardon, là où est l'erreur, que je mette la vérité, là où est le désespoir, que je mette l'espérance, etc. Et la finale, dit bien que toutes ces attitudes, ces dispositions nous préparent à la résurrection finale. C'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant, c'est la conclusion, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Seigneur Jésus, par la foi, dans l'amour, donne-nous de mourir chaque jour pour ressusciter chaque jour et un jour définitivement. Amen.